Les enjeux internationaux.
Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Guillaume Erner. Regard complémentaire donc à propos de la Chine, regard complémentaire sur Taïwan. À l'approche de la présidentielle, elle aura lieu samedi. Donc les relations avec les voisins. Et notre invité sera Kwon Seung Dustin Wang, qui est professeur de sciences politiques à l'Université nationale normale de Taïwan, rencontré à Taipei. Traduction de Nicolas Champeau. On parlera aussi quand même dans un instant des conflits territoriaux en mer de Chine orientale, en mer de Chine méridionale, qui sont d'une très grande complexité d'ailleurs. Il faut piocher dans l'histoire précoloniale, dans l'histoire coloniale, dans l'histoire post-coloniale. Ces conflits paraissent souvent indémêlables juridiquement. De plus, en 82, il y a eu la Convention sur le droit de la mer, la Convention de Montego Bay, qui a fixé un certain nombre de droits et de devoirs pour les États. Globalement, Taïwan a régulièrement défendu la ligne de Pékin sur ses îles, par exemple sur les Spratly, les Paracels, mais en émettant des réserves. Alors, pourquoi ces querelles sont importantes? D'abord, la Convention de Montego Bay, et qui accorde donc évidemment à un certain nombre d'îles une zone économique exclusive de 200 000 marins, c'est-à-dire à peu près 370 km. Ensuite, Pékin tend à développer une politique du fait accompli. Et enfin, cet espace marin est voisin des grands détroits malayo-indonésiens, surtout le détroit de Malacca, fameux détroit de Malacca, artère vitale pour l'approvisionnement en hydrocarbures de la Chine, mais aussi pour l'approvisionnement en hydrocarbures de tous les alliés des États-Unis en Asie Pacifique. Président Ma a lancé une initiative pour la paix en mer de Chine orientale en 2012, en mer de Chine méridionale en 2015. On voit que c'est un sujet donc très sensible et on ne peut pas commencer l'entretien avec le professeur Wang sans parler inévitablement des relations de Taïwan essentielles avec les États-Unis.
The relationships between Taiwan and the United States are
la relation entre Taïwan et les États-Unis est très robuste. Les États-Unis ont non seulement été un proche allié de Taïwan, mais nous avons aussi tissé des liens étroits qui se sont concrétisés au niveau de la coopération économique, culturelle et militaire. Par conséquent, même si les relations entre les États-Unis et la Chine ont été suspendues en 1979, lorsque les États-Unis ont reconnu la Chine continentale comme unique entité représentative des deux côtés du détroit, les liens que nous avions établis au niveau économique, au niveau des échanges culturels, commerciaux et militaires, eh bien, ces liens perdurent. Donc même si nous n'avons plus de relations formelles avec les États-Unis, nous échangeons encore de façon fluide et efficace. Et selon moi, il y a de plus en plus de secteurs où Taïwan et les États-Unis peuvent coopérer. Par exemple, les États-Unis souhaitent que Taïwan puisse rejoindre les organisations économiques. Ils souhaitent que l'on s'associe au partenariat transpacifique, par exemple. Et les États-Unis voient d'un bon œil la participation de Taïwan à certaines affaires internationales. Par exemple, les États-Unis souhaitent que Taïwan joue un rôle plus important au niveau de l'assistance humanitaire et des secours urgents à apporter en cas de catastrophe naturelle. Et à court terme, nous pouvons fournir cette assistance qui recouvre donc les besoins urgents post-catastrophe naturelle. Mais je pense aussi que Taïwan a la capacité d'assumer ses missions. Et en plus, les États-Unis y sont favorables. Alors, si l'on se penche désormais sur les relations entre Taïwan et le Japon, je dirais que nos relations, finalement, sont du même ordre que nos relations avec les États-Unis. Parce que nous avons des relations étroites avec le Japon. mais aussi parce que nous avons en partage les mêmes valeurs démocratiques et la même vision d'une économie ouverte, sans barrières commerciales. Donc, je pense que ce type de lien permet à Taïwan et au Japon de se rapprocher, en dépit des disputes territoriales qui nous opposent parfois, notamment au niveau des îles Senkaku et Diaoyu. Mais je pense que malgré ces contentieux territoriaux, le Japon et Taïwan considèrent que des relations d'amitié unissent les deux pays.
Professeur Wang, est-ce que Taïwan dit quelque chose à propos, par exemple, de la création sur certaines de ces îles de airfields, c'est-à-dire de pistes d'aviation et de bâtiments en dur?
Yes. Chinese government, they are undergoing certain land.
Oui, le gouvernement chinois, c'est vrai, ces dernières années a entamé des travaux sur des territoires dont il revendique la souveraineté, et en particulier ces deux dernières années. Et la communauté internationale prête une attention toute particulière à ces projets. Elle est vigilante. Cela dit, au sujet de ces projets chinois, je voudrais dire ceci. Le gouvernement chinois n'est pas le premier à prendre une telle initiative. La Malaisie, le Vietnam et les Philippines ont déjà conduit ce type de travaux sur des territoires disputés dans les années 1980. Et si l'on remonte un peu plus en arrière, on peut aussi recenser quelques projets au cours des années 70. Donc la Chine n'est pas le premier pays à agir ainsi. Ce qui caractérise les projets chinois, en revanche, c'est leur envergure et la célérité avec laquelle ils sont menés. Par conséquent, cela interpelle la communauté internationale. Selon moi, il faut faire attention aux conséquences et à l'impact que peuvent avoir de tels projets. Vont-ils mener à des restrictions au niveau de la circulation maritime ou aérienne ? Si la Chine peut garantir qu'elle n'envisage pas de restreindre le champ de ses libertés de circulation et garantir que ses appropriations sont menées à des fins pacifiques, il n'y aura pas lieu de s'inquiéter. Il y a un autre aspect important et dont on doit se préoccuper, en revanche, parce que c'est quelque chose que l'on a déjà constaté. Et je veux parler ici des dégâts causés à l'environnement maritime, parce que certains de ces projets ont déjà détruit la barrière de corail. Je pense qu'il faudra demander au gouvernement chinois de faire très attention à ne pas trop endommager la barrière de corail. Il peut conduire des travaux sur ces terres, bâtir des maisons, construire des pistes, mais il doit faire très attention à la préservation de l'environnement maritime dans la mer orientale de Chine, car il s'agit d'une mer semi-fermée, c'est-à-dire que nous sommes tous proches les uns des autres dans cette mer. Et si une partie entreprend des initiatives à risque, l'impact se fait ressentir chez les voisins. Et je ne voudrais pas que l'on soit confronté à ce type de situation à l'avenir. Donc je pense que la Chine et les autres pays qui ont des revendications sur les îles doivent tous faire davantage attention à la préservation de l'environnement maritime. Ce serait agir dans l'intérêt de la mer de Chine.
Professeur Wang, Université nationale normale de Taïwan, et puis demain nous restons en Chine, Guillaume avec la Chine continentale et l'épineuse question du Xinjiang, et notre invité sera Jean-Sylvestre Montgrenier.